Bonsoir à toutes et à tous. Toute cette semaine, le feuilleton est en direct avec la lecture par Pierre-François Garrel du célèbre roman d'Alain Fournier, Le Grand Maulne. Nous retrouvons tout de suite la réalisatrice Sophie Haute-Picon et son équipe au studio 118 de la Maison de la Radio.
Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Réalisation Sophie Haute-Picon. Cinquième épisode, Le Secret. Augustin Maulne vient d'épouser Yvonne de Galais. Mais le lendemain de ses noces, il a répondu à l'appel de Franz qui lui demande de partir à la recherche de Valentine, sa fiancée d'autrefois. En l'absence de son ami, François vient tenir compagnie à la jeune femme solitaire.
Depuis près d'un mois, nous vivions dans un doux printemps prématuré et la jeune femme avait repris, en compagnie de Monsieur de Galais, les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, le vieillard se trouvant fatigué et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des Sablonnières, en longeant l'étang, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités, le vent nous glaçait debout l'un près de l'autre. Je la revois dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, disait-elle, nous sommes partis depuis si longtemps. » Mais à mon étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les Sablonnières, continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes, après avoir longtemps marché, devant une maison que je ne connaissais pas, isolée au bord d'un chemin défoncé. C'était une petite maison bourgeoise, couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays. À voir Yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage. Elle ouvrit en se penchant une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire. Une grande cour herbeuse où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin de l'hiver était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. C'était ici, me dit enfin ma compagne. La maison de Franz, quand il était petit, il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il put aller jouer, s'amuser et vivre quand cela lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle, qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, Franz partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin. Et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Des semaines, des mois passèrent, époque passée, bonheur perdu. De celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence, c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin. Le mois d'août, époque des vacances, m'éloigna des Sablonnières et de la jeune femme. Je dus aller passer à Sainte-Agathe mes 2 mois de congé et je revis la grande cour séchée, le préau, la classe vide. Tout parlait du Grand Maulne. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Je pensais que notre jeunesse était finie et le bonheur manqué. Il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçais à Mie lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée. Je coupai court à tout en annonçant que la jeune femme de mon ami Maulne serait mère au mois d'octobre. Je regagnai ma maison d'école 4 jours avant la rentrée des classes. Après un léger repas du bout des dents, impatient, anxieux, je mis ma pèlerine et partis pour une fiévreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des Sablonnières. Après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme, je franchis derrière la maison la clôture du jardin et m'assis sur un banc contre la haie, heureux simplement d'être là, tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde. La nuit venait, une pluie fine commençait à tomber, l'ombre m'entourait lentement et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie. C'est alors que, levant la tête, je la vis à 2 pas de moi. Yvonne de Galais me tendit une main brûlante et me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances. « Il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. » Il est vrai, dit-elle presque tout bas avec un soupir. Je suis seule encore, Augustin n'est pas revenu. Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençais à dire lentement « Tant de folie dans une noble tête. Peut-être le goût des aventures plus fort que tout. » Mais la jeune femme m'interrompit. « Ne parlez pas ainsi, » dit-elle doucement. « François Sorel, mon ami, il n'y a que nous, il n'y a que moi de coupable. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit « Voici le bonheur ». Voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse. Voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, hein, puis d'épouvante, et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir ? Yvonne, dis-je tout bas, vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. Au fond de moi, je pensais... Puisqu'il m'a tant cherché, puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. Mais quand je l'ai vu près de moi avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. « Je ne suis pas digne de vous, » répétait-il, quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. Et j'essayais de le consoler, de le rassurer. Rien ne calmait son angoisse. Alors j'ai dit « S'il faut que vous partiez, » S'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, c'est moi qui vous demande de partir. Il y eut un long moment de silence pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoutter dans les haies et sous les branches des arbres. Il est donc parti au matin, poursuivit-elle. Plus rien ne nous séparait désormais et il m'a embrassé, simplement comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. Elle se levait. Je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. « Pourtant il ne vous a jamais écrit ?» demandai-je. « Jamais, » répondit-elle. Et alors la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure, nous commençâmes à parler de lui comme nous ne l'avions jamais fait. Détails oubliés, impressions anciennes nous revenaient en mémoire, tandis que lentement nous regagnions la maison. Longtemps dans l'ombre, j'entendis la précieuse voix basse de la jeune femme, et moi je lui parlais, sans me lasser, avec une amitié profonde, de celui qui nous avait abandonnés. La classe devait commencer le lundi. Le samedi soir, vers 5 heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupé à scier du bois pour l'hiver. Elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux Sablonnières. L'accouchement avait été difficile, le médecin de Vierzon avait dû appliquer les fers. Je laissai là mon travail et je suivis la bonne femme. Je n'étais jamais entré dans une maison où fut né le jour même un petit enfant. Que cela me paraissait bizarre et mystérieux et bon. Il faisait un soir si beau que Monsieur de Galais n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour. Accoudé près de moi sur l'appui de la croisée, il me racontait avec épuisement et bonheur le drame de la nuit. Sous les rideaux, cela se mit à crier, un petit cri aigre et prolongé. Alors, Monsieur de Galais me dit à demi-voix, « C'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. » Il ouvrit les rideaux et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, » dit Monsieur de Galais. « Le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Puis Monsieur de Galais entrouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, » dit-il. Elle était étendue le visage enfiévré au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille. « Oui, mais on me l'a abîmée, » dit-elle en souriant. Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. Le lendemain, dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux Sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà, prière de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait, je frappais assez fort. Quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était le médecin de Vierzon m'ouvrit. « Chut !» me dit-il tout bas, l'air fâché. « La petite fille a failli mourir cette nuit et la mère est très mal. » Complètement déconcerté, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille endormie dans son berceau était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. Monsieur de Galais entra, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, » me dit-il tout bas, « qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut, a ordonné le médecin, lui persuader que cela va bien. » Tout le sang à la figure. Yvonne de Galais était étendue, la tête renversée comme la veille, les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés comme quelqu'un qui étouffe. Elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicibles. Elle ne pouvait parler, mais elle me tendit sa main en feu avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire signe d'aller dehors, chercher quelqu'un. Mais alors, une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus, qui un instant m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent, et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita, le médecin et les femmes, avec un ballon d'oxygène, tandis que le vieillard, penché sur elle, criait comme si déjà elle eût été loin de lui, de sa voix rude et tremblante. « N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Puis la crise s'apaisa, elle put souffler un peu, mais elle continua à suffoquer, à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours, mais incapable, fût-ce un instant, de sortir du gouffre où elle était plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Le lendemain était le jour de la rentrée des classes. À 7 heures, il y avait déjà 2 ou 3 gamins dans la cour. J'hésitais longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le préau et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des Sablonnières était morte hier, à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école, c'est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer, puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les vacances sont finies. Finies les longues courses perdues en voiture. Finie la fête mystérieuse, tout redevient la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Quant à moi, je prends mon chapeau noir et je m'en vais misérablement vers les Sablonnières. Me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a 3 ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Galais, la femme d'Augustin Maulne, est morte hier soir. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Nous avions retrouvé la belle jeune fille, nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon. Et moi, je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. J'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille, et c'est à elle la première que j'aurais confié la grande nouvelle secrète. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure et de vous, Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée, tant aimée. Dans la maison, pleine de tristes souvenirs où des femmes tout le jour berçaient et consolaient un tout petit enfant malade, le vieux monsieur de Galais ne tarda pas à s'aliter. Au premier grand froid de l'hiver, il s'éteignit paisiblement. Il m'institua par testament son légataire universel jusqu'au retour de Maulne, à qui je devais rendre compte de tout, s'il revenait jamais, et cette sablonnière, désormais, que j'habitais. Un jour de congé, j'avisai au grenier une vieille petite malle longue et basse et que je reconnus pour être la malle d'écolier d'Augustin. Elle était pleine jusqu'au bord des cahiers et des livres de Sainte-Agathe, arithmétique, littérature, cahiers de problèmes, que sais-je. Il y avait aussi un cahier de devoirs mensuels. C'était un cahier vert, tout jauni sur les bords. Le nom de l'élève, Augustin Maulne, était écrit sur la couverture, en ronde, magnifique. Je l'ouvris. Dès la première ligne, je jugeai qu'il pouvait y avoir là des renseignements sur la vie passée de Maulne à Paris. Et je descendis dans la salle à manger pour parcourir à loisir, à la lumière du jour, l'étrange document. Je suis passé une fois encore sous la fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galais l'ouvrirait-elle que je n'aurais rien à lui dire puisqu'elle est mariée? Que faire maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré sur le quai cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage. Elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face, elle m'a dit, d'une voix brève, « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois, à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, à la nuit pleine, sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bac de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Au théâtre, les deux jeunes filles, mon amie qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est plantée devant moi. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. Suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à 4 heures devant le même théâtre où nous sommes allés. « Si je n'étais pas là jeudi, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. » Jeudi 18 février, je suis parti pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie, tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini. Il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Et moi, moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain? Vendredi soir. J'avais pensé écrire à la suite « Je ne l'ai pas revu » et tout aurait été fini. Mais en arrivant ce soir à 4 heures au coin du théâtre, la voici. Fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable. Un air à la fois douloureux et malicieux. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit « mon amant » en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je retranscris de mauvaise grâce. « N'ayez aucune confiance en moi. Je n'ai jamais fait que des folies. J'ai désespéré mon fiancé, je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop. Il ne me voyait qu'en imagination et non point tel que j'étais. Or, je suis pleine de défauts. Nous aurions été très malheureux. » Une autre fois, « Ce qui me plaît en vous, » m'a-t-elle dit en me regardant longuement, « ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. » Une autre fois, « Je l'aime encore, plus que vous ne pensez. » Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement, « Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez, vous aussi? Vous aussi, vous allez me demander ma main ?» J'ai balbutié, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit oui. Il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous les deux à la campagne, je ne sais où. Le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi, que j'ai dû reconstituer toute cette partie de son histoire. Depuis qu'il avait résolu, dans ce village perdu afin d'éviter les commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même remords le désolait. Patrice, le fils du fermier, et sa femme les accompagnèrent à la promenade. Peu à peu, sur la pente inégale couverte de bruyère, les deux couples se trouvèrent séparés. Maulne et Valentine s'assirent entre les genévriers dans un petit taillis. « À vous, dit-elle, je veux donner tout ce que j'ai, quelque chose qui ait été pour moi le plus précieux que tout, et vous le brûlerez. » Alors, en le regardant fixement d'un air anxieux, elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit, les lettres de son fiancé. Ah ! Tout de suite, il reconnut la fine écriture. Comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt ? C'était l'écriture de Franz, le bohémien, qu'il avait vu jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine. Si grande était sa stupeur que Maulne ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait. Maulne lisait, à demi aveuglé de regret et de colère, le visage immobile, mais tout pâle, avec des frémissements sous les yeux. Valentine, inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était et ce qui le fâchait ainsi. Elle voulut lui parler, lui prendre la main, mais il la repoussa brutalement. « Allez-vous-en, laissez-moi !»« Eh bien, s'il en est ainsi, » dit-elle, le visage en feu, bégayant et pleurant à demi. « Je partirai en effet. Je rentrerai à Bourges, chez nous, avec ma sœur. Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour me garder, eh bien, je repartirai pour Paris. » Je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n'ai plus de métier. » Le journal s'interrompait de nouveau. Suivaient encore des brouillons de lettres, lettres d'un homme indécis, égaré. Rentré à la Ferté d'Angillon, Maulne écrivait à Valentine, en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir, mais en réalité peut-être pour qu'elle lui répondît. Dans une de ses lettres, il lui demandait ce que, dans son désarroi, il n'avait pas même songé d'abord à lui demander. Savait-elle où se trouvait le domaine tant cherché? Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques mots en hâte à l'aube avant de quitter avec sa permission, mais pour toujours, Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille. « Je pars. » Il faudra bien que je retrouve la piste des deux bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière et qui sont partis vers l'est à bicyclette. Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener avec moi et installer dans la maison de Franz, Franz et Valentine mariés. Ce manuscrit que j'avais commencé comme un journal secret et qui est devenu ma confession sera, si je ne reviens pas, la propriété de mon ami François Sorel. Il avait dû glisser le cahier en hâte sous les autres, refermer à clé son ancienne petite malle d'étudiant et disparaître. Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. La seule joie des sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle allait avoir un an. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa petite main ouverte en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Un dimanche matin de la fin de septembre, j'étais debout à 5h30 devant la maison, silencieux et affairé. J'étais occupé à démêler mes filets lorsque j'entendis la grille s'ouvrir, un pas crier sur le gravier. L'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était autant que je pus distinguer un grand gaillard, barbu, habillé comme un chasseur ou un braconnier. Hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand Maulne. Un long moment, je restai là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillé son retour. Alors, je m'avançai vers lui et sans rien dire, je l'embrassai en sanglotant. Tout de suite, il comprit. Elle est morte, n'est-ce pas ? Et il resta là, debout, sourd, immobile et terrible. Je le pris par le bras et doucement, je l'entraînai vers la maison. Il faisait jour maintenant. Tout de suite, pour que le plus dur fût accompli, je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte. Sitôt entré, il tomba à deux genoux devant le lit et longtemps resta la tête enfouie dans ses deux bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubant, ne sachant où il était. Et toujours le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule pendant que sa nourrice était en bas et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée tournée vers nous. « Voici ta fille, » dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis, il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait. Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit « Je les ai ramenés, les deux autres. Tu iras les voir dans leur maison. » Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie qui m'eût laissé le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre. Et déjà, je l'imaginais la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures.
Vous venez d'entendre Le Grand Maulne d'Alain Fournier, 5e épisode, lu par Pierre-François Garel, avec la voix de Céline Milia Baumgartner. Équipe technique, Benjamin Vignal, Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation et morceaux choisis par Sophie Haute-Picon.